Bonjour à chacun. Peut-être juste avant de commencer, une petite annonce. On aimerait réunir à midi, juste à la sortie du culte, les animateurs des Toujours Joyeux, de l'Éveil à la Foi. Non seulement ceux qui étaient animateurs l'année passée, mais ceux aussi qui pourraient être intéressés, qui se posent les questions. On sera dans la salle en haut. Vous avez l'air d'avoir aussi chaud que moi, d'être aussi fatigué. Je me sens un peu fébrile, je vous avoue. Voilà, j'ai dit à Guillaume que je serai plus bref que d'habitude. Je vais essayer de m'y tenir. Alors, nous concluons aujourd'hui la deuxième lettre de Pierre, une lettre qui nous invitait justement à nous accrocher ensemble aux promesses de Dieu en l'attendant. Et la semaine passée, Pierre, n'avait pas de mots trop durs pour condamner les fraudateurs. On a même fini avec cette image des chiens qui retournent à leur vomi, et c'était vraiment dur à entendre. Et dans ce nouveau chapitre, le ton est radicalement différent. Guillaume nous a dit que l'on avait besoin d'être rassuré sur les promesses de Dieu, sur ce qu'il va faire, et c'est précisément l'objet du texte d'aujourd'hui. Que l'on soit tous ensemble, vous et moi, rassurés sur ce que Dieu va faire. Paul s'adresse à ses frères et sœurs, et maintenant c'est des bien-aimés. Il veut les rassurer, il veut conforter leur foi face aux moqueurs. Il veut qu'il n'ait aucune raison de remettre en question l'espérance dans le futur retour de Christ. Alors il y a une question que je voudrais vous poser ce matin. Comment est-ce que nous attendons le retour de Christ? Posez-vous cette question. Comment est-ce que j'attends le retour de Christ? Peut-être que c'est quelque chose dont nous ne parlons jamais, ni dans l'Église, ni en dehors de l'Église, peut-être surtout pas en dehors de l'Église, peut-être parce que nous doutons, peut-être parce que nous avons peur que l'on se moque de nous. Peut-être qu'on ne se sent pas vraiment concerné par son retour. On verra bien. Il y a 2000 ans, il a dit « bientôt ». Ouais, ma femme, si elle me dit « bientôt », au bout d'une demi-heure, ça commence à être long. Finalement, à quoi ça sert de s'intéresser à ça? On verra bien. Peut-être qu'il reviendra. Peut-être que nous ne sommes pas prêts à ce que Jésus retourne, à revienne. Mais dans le sens où, écoute, moi je voudrais bien que tu reviennes, mais pas tout de suite. En fait, d'abord, peut-être que je voudrais finir mes études, c'est quand même sympa, vivre cet amour qui commence, profiter à fond de mes enfants qui grandissent, profiter de cette belle maison que nous venons de construire, de ma retraite qui commence. Alors Jésus revient, mais pas tout de suite. Face à tous ces sentiments, notre texte nous dit aujourd'hui, mes bien-aimés, le retour de Jésus est proche. Il est certain. Mes bien-aimés, Jésus n'est pas en retard. Mes bien-aimés, il est vraiment temps de se préparer à son retour. Et je vous propose qu'on puisse lire ensemble ce dernier chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Je suis à la page 804, dans la seconde 21. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes diront en suivant leur propre désir et diront « Où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'au jour du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera, où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mes bien-aimés, nous pouvons avoir confiance dans le retour de Jésus. Oui, le retour de Jésus est certain. Et pas juste, nous le croyons dans le sens où je crois qu'il fera beau demain, et au vu du temps de cette semaine, il y a de bonnes probabilités qu'il ne fasse pas si mauvais que ça demain. Mais regardez, Pierre nous appelle en fait à nous souvenir et à ce que notre intelligence soit éveillée. En fait, il veut que nous raisonnions correctement. Il ne dit pas la foi, c'est l'aveuglement. Devenir chrétien, c'est pas arrêter de réfléchir, c'est pas juste devenir stupide ou crédule, mais au contraire, d'avoir l'intelligence éveillée, renouvelée par celui qui a créé le monde et le maintient entre ses mains. En fait, Pierre décrit pas ici une expérience un peu mystique, on devient chrétien et puis tout d'un coup, on comprend toutes les choses différemment. En fait, il dit, il faut vous souvenir de trois choses. Les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, l'Ancien Testament, le commandement du Seigneur et Sauveur, ce que Jésus a dit et que nous trouvons notamment dans les évangiles, ce commandement qui est lui-même enseigné par les apôtres, le Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit à peu près la même chose dans sa lettre aux Éphésiens. Si nous lisons dans la lettre aux Éphésiens, nous lisons « Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ, étant lui-même la pierre de l'angle, les apôtres, les prophètes et Jésus qui est au milieu, qui est celui qui soutient l'enseignement de l'Ancien Testament qu'il annonce et du Nouveau Testament qu'il explique. Alors les moqueurs disent, mais où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout est dans le même état. Rien n'a changé depuis le début de la création. En fait, nous devons comprendre qu'il y a deux attitudes que nous pouvons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Interpréter ce que l'on voit au regard de la parole ou interpréter la parole au regard de ce que l'on voit. Et en fait, c'est ça le chemin choisi par les moqueurs. Ils disent « Moi, je regarde et je vois rien, donc je dois comprendre que la parole est fausse ou qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. » Et Pierre dit « Non, vous devez faire le contraire, en fait. Vous devez interpréter votre contexte en fonction de ce que dit la parole. » En fait, ils disent, vous voyez, Jésus ne revient pas, mais Pierre va renverser leur raisonnement en disant, mais en fait, non seulement vous interprétez la parole au contexte, mais en plus, volontairement, vous essayez de la tordre pour utiliser ou pour oublier ce qui vous arrange. Est-ce que vous avez déjà entendu cette affirmation qui dit « mais en fait, c'est pour donner du sens à ta vie que tu as besoin d'un Dieu. Vous avez besoin de croire parce que ça vous rassure. Vous avez besoin d'un Dieu parce que c'est vrai que quand on est malade et qu'on ne guérit pas et que ça dure, avoir un Dieu, c'est sympa parce que ce Dieu nous dit que dans l'éternité, il n'y aura plus de maladie. Et vous êtes rassurés, les amis. Vous avez besoin d'un Dieu parce que vous vivez mal les relations dans vos familles ou au travail, qu'il y a des disputes, des discordes, que c'est compliqué. Alors, ça vous permet d'être rassuré. Vous dites, un jour, dans l'éternité, on sera tous en paix et tout va bien. Vous avez besoin d'un Dieu parce que vous avez peur de la mort. Et comme vous avez peur de la mort, vous vous dites, tout va bien, il y aura la vie éternelle. Mais regardez, Pierre dit que c'est exactement le contraire qui se passe. Il dit, en fait, non, c'est pas ça qui se passe. Ce sont eux qui oublient volontairement qu'il y a un Dieu qui va juger pour pouvoir vivre comme ils veulent. Ils enlèvent des écritures ou ils rejettent la parole de Dieu pour ne pas avoir conscience du jugement et ainsi pouvoir vivre selon leurs désirs. Vous dites que rien n'a changé depuis la création, mais en fait vous oubliez volontairement que Dieu a créé le monde par sa parole. Et que ce monde a une existence qui dépend totalement de la volonté de Dieu. Il n'existe pas par lui-même, pour lui-même, mais Dieu a un plan pour le monde qu'il a créé. Et c'est assez ironique parce que les moqueurs disent « Depuis la création, rien ne change » et Pierre répond « Oui, mais parce que vous êtes là, en fait, on est dans les derniers temps. » Parce que la parole dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Vous êtes la preuve même, finalement, que Dieu va revenir. Vous dites que rien n'a changé et que les gens meurent et continuent de mourir et qu'il n'y a pas de grand jugement, mais vous oubliez volontairement qu'il y a déjà eu un jugement. Que Dieu a déjà jugé une génération au temps de Noé et que de la même façon, il y avait des moqueurs qui étaient là pour annoncer que ce jugement allait arriver. Aussi sûr que Dieu a jugé une génération, aussi sûr il va juger toutes les générations. Il les a d'abord jugés par l'eau, il les jugera définitivement par le feu. En fait, Pierre veut nous montrer que toute cette parole est unie, toute cette parole va dans le même sens, toute cette parole, Ancien Testament, les paroles de Jésus, Nouveau Testament, nous annoncent qu'un jour, Dieu va juger la terre. Ce que nous croyons à propos du retour de Jésus est inscrit dans toutes les Écritures. Toutes les Écritures nous confortent que Jésus va revenir. C'est ce qui fonde notre foi. Nous croyons ce qui est écrit et inspiré par Dieu. L'Ancien, le Nouveau Testament unis pour annoncer, raconter l'Évangile de Jésus-Christ qui s'achèvera avec son retour. Pourtant, nous sommes 2000 ans plus tard et comme nous l'avons vu au chapitre d'avant, les faux docteurs et leurs enseignements prospèrent. Mais vous savez pourquoi ils prospèrent ? Essentiellement parce que les chrétiens connaissent mal la parole de Dieu, connaissent peu la parole de Dieu, connaissent très partiellement la parole de Dieu. Parce qu'ils connaissent quelques textes des Épîtres, quelques textes de l'Évangile, ils ne sont pas assez affermis pour répondre aux fausses doctrines. C'est pour cela que nous désirons avec vous entendre, étudier toute la parole de Dieu. C'est pour cela que nous prêchons texte après texte l'Ancien Testament, les Évangiles, le Nouveau Testament. C'est pour cela que cette année nous avons prêché l'Exode, la première, la seconde lettre de Pierre, que nous verrons Jonas à partir de la semaine prochaine, que nous verrons Néhémie à partir du mois de septembre, que nous aurons encore tout un programme centré sur la parole de Dieu, texte après texte, pour que rien n'échappe dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pour cela que dans les groupes de maison, nous sommes essentiellement centrés sur la parole. C'est pour cela que nous avons travaillé autour de Colossiens. Pas pour que moi, Matthieu ou un ancien vous dise des choses qu'il a envie de dire à propos de ce qu'il comprend de la Bible, mais pour que Dieu parle, pour que nous entendions ce que Dieu dit, et quelquefois il nous dit je reviens bientôt. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Il dit, les amis, mes bien-aimés, entendez cela. Peut-être que des gens tordent les Écritures. Peut-être que des gens évitent de vivre selon les Écritures. Mais je vous assure que je reviens bientôt. Mes bien-aimés, le retour de Jésus n'est pas en retard. Au moment où Pierre écrit, l'ascension de Jésus date de trentaine d'années. Mais déjà, le peuple de Dieu s'impatiente et commence à se poser des questions. C'est quand même long, 30 ans, pour quelqu'un qui a dit « je reviens bientôt ». Et par cette parole bien connue, Pierre leur répond « aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour ». Et Pierre en fait rappelle que l'échelle de temps de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. Lorsque nous parlons de distance, je ne sais pas si moi j'évoque 500, 1000 kilomètres, ça paraît quand même long. Je vais rarement voir mes amis tous les jours qui habitent à plus de 500 kilomètres, c'est une distance. Mais quand je regarde la circonférence de la Terre de 40 000 kilomètres, c'est énorme. Pourtant, vous savez, aujourd'hui, on estime que la plus grande distance observable est de 93 milliards d'années-lumière. Ou autrement dit, 880 000 milliards de kilomètres. Et c'est à la fois complètement inimaginable et à la fois toujours pas à l'échelle de Dieu. C'est inimaginable pour nous et c'est pas à l'échelle de Dieu. Vous savez, c'est un jour, 1000 ans, ben c'est pareil. Il n'y a pas de différence en fait. Un peu, c'est comme si je devais prendre mes rendez-vous avec vous au millionième ou au milliardième de seconde. Vous savez, Le culte, la semaine prochaine, sera à 9h59 et 314 millièmes de seconde. Ne soyez pas en retard. D'ailleurs, j'en profite juste pour rappeler qu'en fait, il est à 10h. Et que comme on n'a pas tous la précision de Dieu, il est assez sage d'être dans la salle à moins 5. Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Et Pierre ajoute, mais il n'est pas en retard, en fait. Il est patient. Ce que vous prenez pour du retard, en fait, c'est de la patience. En fait, le problème, il n'est pas de son côté, il est du vôtre. Dit le problème, ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Dieu est patient parce que des gens ont encore besoin de recevoir l'Évangile pour être sauvés. Mais Dieu est aussi patient pour nous sanctifier, pour nous rendre parfaits à l'image de son Fils à travers de tout ce qu'il nous propose de traverser. Rien n'est ni inutile à son plan. Et peut-être là-dessus, ce matin, on a eu beaucoup de sujets de prière. Aucune situation n'était pas dans la volonté de Dieu. Il n'y a rien de ce que nous vivons qui ne soit pas agréé, tamponné par Dieu. Pas parce que Dieu est méchant. Parce que Dieu nous sanctifie au travers de tout ce qu'il nous propose de vivre. Dieu nous appelle à vivre une vie sainte à travers les joies, les difficultés. Dieu nous transforme à travers les joies et les difficultés. Dieu a un plan pour chaque chose qui se passe dans nos vies. À ceux qui disent « Ah ah ah, ça fait bien longtemps qu'on attend et toujours rien à l'horizon », Dieu répond « Oui, je patiente, mais bientôt, ce sera trop tard. » Jésus n'est pas en retard, mais nous devons être patients parce que Dieu est patient. Mes bien-aimés, il est encore temps de se préparer à son retour. En fait, pour Pierre, la patience de Dieu n'est pas un appel à ne rien faire, à dire ben, « Dieu patiente, moi je patiente ». Non, il dit d'attendre, mais il ne dit pas d'attendre sans rien faire. On a souvent cette image, vous savez, des gens qui se préparent à l'apocalypse nucléaire. Ils font un trou dans leur cave ou dans leur jardin. Vous savez, les Suisses savent très bien faire ça, avec des bunkers énormes, des murs de 1,50 m de large, des boîtes de conserve, de l'eau, et on attend. sans rien faire. Et on attend. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils espéraient trouver en sortant. Mais... Dieu ne nous dit pas de faire des conserves. Il nous dit de viser la sainteté. Il nous dit de centrer nos vies sur Dieu. Il patience, mais cette patience n'est pas inutile pour nous. Il patience pour que d'autres soient sauvés. Il patiente pour que nous soyons sanctifiés. Au verset 12, Pierre nous dit que parce que Dieu va juger le monde, notre conduite et notre piété doivent être saintes. Au verset 14, il dit « Faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche, irréprochable, dans la paix. » Faites tous vos efforts. Et le terme qui est utilisé, en fait, évoque le fait de lutter avec insistance, avec sérieux, avec assiduité. Faites tous vos efforts. Parce que Jésus revient, menons une vie sainte. Jean dit la même chose dans son épître. Il dit « Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. » Jean-Noël a évoqué le cas de Pierre ce matin. Et nous pourrions dire, oui, mais vous savez, maintenant les gens sont chrétiens et... C'est l'essentiel, hein, que les gens soient sauvés. Et Pierre ne dit pas ça. Il dit que Dieu patiente pour que certains soient sauvés, et il dit qu'il patiente aussi pour que d'autres soient sanctifiés. Et que tous ensemble, nous devons apprendre à marcher ensemble d'une vie sainte. Nous ne devons pas accepter le péché, ni dans nos vies personnelles, ni dans l'Église. Dans le chapitre 2, les faux docteurs tordent les Écritures, et la conséquence, c'est qu'ils vivent selon leurs propres désirs. Ici, Pierre nous appelle à nous saisir de la totalité des Écritures qui nous disent que Dieu nous sauve pour que nous lui soyons consacrés. C'était tout le thème de l'Exode. Vous vous rappelez ? Sauver pour servir. Il dit, sauver, ce n'était pas votre faute. Vous avez même tout fait pour que ça ne marche pas, mais Dieu vous a quand même sauvé. Mais il vous a sauvé pour le servir. Pour que vous soyez son peuple, saint, un peuple à part, différent des autres peuples, un peuple que l'on reconnaisse. Et nous retrouvons cela ici aujourd'hui. Quand je serai au ciel, je serai rendu parfait. Pourquoi faire des efforts ? Je suis bien dans ce monde. J'aime tant vivre pour satisfaire mes besoins, mes désirs. Pourquoi est-ce que finalement je devrais y renoncer ? Pierre nous appelle à ne pas tordre les écrits de Paul. Et si on ne peut pas savoir avec certitude de quel écrit il vise, on comprend quand même assez simplement qu'il fait appel à la doctrine de la grâce seule prêchée par Paul. Une doctrine qui est utilisée par certains pour justifier le fait de ne faire aucun effort pour vivre une vie sainte. Mais comme nous l'avons encore vu dans la lettre aux Colossiens, notamment, que nous avons partagée dans les groupes de maison, l'œuvre totalement accomplie de l'Évangile nous appelle à vivre selon l'Évangile. L'indicatif de l'accompli de l'Évangile nous appelle à l'impératif de vivre selon cet Évangile. Pierre conclut en disant « Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. » Et la semaine passée, Tony nous a encore rappelé que choisir ce que l'on veut croire, c'est s'engager sur le chemin du mensonge et tôt ou tard de l'injustice. Et ici, nous avons la démarche inverse. Pierre nous dit que lorsque nous choisissons notre manière de vivre, nous abandonnons le sûr fondement de la foi. En fait, on ne peut pas dire « moi je crois à toute la parole de Dieu, mais je vis comme je veux, parce que quand je vis comme je veux, j'abandonne la parole de Dieu. Et je témoigne du fait que je n'y crois pas à tout ce qui m'entoure. » Quand vous choisissez votre manière de vivre, vous témoignez que vous ne croyez pas dans la parole de Dieu. Et c'est tout ce que les gens qui vous entourent voient. Et vous savez, c'est complètement en contradiction avec la patience de Dieu. Dieu patiente et nous lui disons « Non, ne patientez pas. Nous ne croyons pas dans ce que nous disons. » Mes bien-aimés, Le retour de Jésus est certain. Le retour de Jésus n'est pas en retard. Il patiente. Mais bien aimé, il est vraiment temps de se préparer à son retour. Pour cela, un seul chemin. Croître ensemble, tous ensemble, les uns et les autres, au travers des cultes, au travers des groupes de maison, au travers des liens que vous avez entre vous. Et moi, je me réjouis quand je vois les groupes de croissance de nos jeunes qui fonctionnent. Je me réjouis quand j'entends des gens qui s'invitent les uns les autres, qui partagent l'Évangile. Je me réjouis quand je vois l'accompagnement qui est proposé aussi par l'Église quand il y a des difficultés, pour qu'ensemble, l'on puisse croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour que à lui soit toute la gloire, pas dans l'éternité, hein, c'est pas ce que dit Pierre. Il dit que Dieu veut être glorifié dès maintenant. Pour qu'à lui soit toute la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Et je voudrais prier encore avec vous. Notre Dieu, notre Père, je dois bien avouer que des fois, j'ai pas ton retour dans ma tête et que je vis juste au jour le jour, ne pensant pas qu'au ciel, tu es en train de patienter. Et qu'en fait, ton retour devrait être imminent, mais qu'il y a encore cet évangile à annoncer, à proclamer et à vivre. Et je veux t'appeler à m'aider à vivre avec cette pensée que tu reviens bientôt. À vivre pour annoncer, mais à vivre aussi pour être sanctifié, pour que mon cœur, mes paroles, mes actes soient totalement alignés et que dès maintenant, tu sois glorifié par ma vie, par notre communauté, que nos voisins, que nos entourages entendent cela, que tu reviens bientôt et qu'il faut qu'ils choisissent dès maintenant de te suivre. Tu vois, cette période d'été qui s'ouvre, où peut-être nous avons des emplois du temps un peu plus relâchés, aide-nous pendant ce temps à nous centrer sur ta parole, à nous engager à la lire, à essayer de la comprendre dans sa globalité, pas en tirer juste des extraits qui nous plaisent, mais à comprendre qu'est-ce que réellement tu veux nous dire, à entendre ton message et à le digérer et le vivre jour après jour. Je te prie aussi pour cet événement de Bouge ta ville qui s'annonce, qui est aussi une occasion de montrer ce que nous pouvons vivre. Je te prie que cet événement puisse te glorifier dans cette ville et qu'il puisse attirer les regards, non sur nous, mais sur toi. Au nom de Jésus. Amen.